Amen, amen, amen. Amen. Prenez place dans la présence de Dieu. Vous savez, le groupe de louanges, c'est... Ils sont devenus comme des jeunes lions. Ils sont devenus comme des jeunes lions. Et vous savez, Judas, c'est le... veut dire louange. Et ce week-end, le Seigneur a levé des petits lions. On avait un camp ce week-end. Je ne sais pas dans quel état étaient Pierre, Jean et Jacques quand ils sont descendus de la montagne. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient un peu comme le groupe de louanges aujourd'hui, mais vous savez, nous avons été visités par le Seigneur. Le Seigneur nous a visités. Et je sais qu'il n'y a pas que le groupe de louanges. L'Église est visitée par le Seigneur. Il se passe quelque chose. Est-ce que... demande à la personne, est-ce que à côté de toi, peut-être devant, est-ce que tu viens avec nous? Pose la question, est-ce que tu viens avec nous? Hein? Est-ce que tu es partant? Hein? Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux faire partie? Est-ce que tu viens avec nous? Je lis dans le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Comme des ruisseaux dans le midi, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je ne suis pas encore dans la prédication. Je voulais juste vous dire que notre Dieu, le Seigneur en qui nous croyons, c'est celui qui ramène les captifs. C'est celui qui brise les chaînes. C'est vraiment lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui le fait. Et la parole nous le rappelle. La parole nous le dit. Et c'est une réalité. Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Car certainement, le Seigneur est au milieu de nous. Certainement. Certainement, le règne de Dieu vient sur la terre. Certainement. C'est un grand jour aujourd'hui pour l'Église de Réveil. Ce n'est pas parce qu'il y a eu tout ça. C'est magnifique parce que le Seigneur nous visite. Mais aujourd'hui, Satan avait un plan. Satan avait un plan. Et... c'était vraiment bien planifié, c'était bien amorcé, c'était bien parti. C'était bien parti parce que le groupe de louanges était censé ne pas être là. Ouais. C'était bien parti parce que le berger de l'église est atteint dans sa santé. C'était bien parti parce que son frère d'armes est allé s'occuper de son papa qui est malade. C'était bien parti parce que il y a eu tellement de problèmes autour de nous, attaqués. Nos vies sont ébranlées. C'était bien parti. C'était bien parti, mais c'est sans tenir compte de qui est le Seigneur. Qui est le Seigneur? Satan fait une œuvre qui le trompe. Mais le Seigneur fait un œuvre qui glorifie son nom. Et le Seigneur aujourd'hui glorifie son nom. Il glorifie son nom au milieu de nous. Le Seigneur nous a ramenés. Et je sais que le pasteur est au milieu de nous ce matin. Vous l'avez déjà vu ce matin? Non? Vous ne l'avez pas vu ce matin? Alors applaudissez parce qu'il est là. Applaudissez. Ils sont là, ils sont derrière là-bas. On avait le conseil et Alain avait quelque chose dans le cœur. Il a dit, j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose pour célébrer. Parce que ça fait 20 ans que je suis venu prêcher pour la première fois dans l'église en tant que pasteur. 20 ans. 20 ans. Jour pour jour. Ceux qui ont le WhatsApp savent très bien ce que ça veut dire parce que pour eux, c'était jour par an ou an par jour ou jour pour jour, an par an, on ne savait plus. Ils étaient un peu euphoriques. Mais nous voulons être reconnaissants ce matin. Hein? Vous êtes reconnaissants ce matin? Nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur a gardé Alain, le Seigneur était avec lui, il l'a utilisé. Alain et Yvette, bien sûr, ils sont vraiment ensemble. Nous mettons ensemble dans ce ministère et nous sommes reconnaissants parce que nous allons pouvoir fêter ça aujourd'hui. Amen. 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 Si tous les intros de toutes les prédications sont longues comme ça, je crois qu'il y aura moins de monde à l'église. Je vais vous parler d'unité ce matin. Il y a une citation bien connue, utilisé à chaque fois, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tout le monde a compris là? Ok. Oh non, mais je voulais juste vérifier. Est-ce que tu peux mettre le psaume 133, s'il te plaît? Le psaume 133. Si vous avez une Bible, ben, on va y aller ensemble. Cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Le psaume commence et David dit voici, voici. C'est comme si il fait un tour de magie et dit voici. Il vous montre. Le terme qui est utilisé en hébreu c'est hemet et ça veut dire regardez. Ça veut dire remarquez, apprenez, saisissez, imitez, n'oubliez pas. Ne prenez pas pour acquis. Regardez, ne prenez pas pour acquis ce qui va suivre. Voyez, voyez comme il est beau pour les frères. Voyez comme il est doux pour des frères d'être ensemble. Ne prenez pas pour acquis parce que c'est vraiment là que l'Éternel donne la bénédiction. À chaque fois qu'il y a l'unité dans l'Église, à chaque fois que l'unité est en marche dans l'Église, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se prend la main, c'est à chaque fois qu'on se met ensemble, c'est à chaque fois que l'ensemble est mis en évident, que là, l'Éternel donne la bénédiction. Le ensemble, c'est tellement pas possible, quoi. Je veux dire, je sais pas. Moi, avec Flo, ça fait un moment maintenant qu'on est mariés. Mais c'est deux continents qu'on a unis ensemble. Ben, regardez les coutumes, regardez tout ce qui se fait. Tout ça, c'est retrouvé chez nous. Hein. À chaque fois qu'on se parlait, c'est difficile d'être ensemble. Le ensemble, c'est ce qui permet d'accomplir le plan de Dieu. Le ensemble, c'est la seule façon de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Les pensées de Dieu, c'est le ensemble. À chaque fois qu'on sort de ce ensemble, on sort de la pensée de là. Vous allez entendre beaucoup de fautes de français, mais ce n'est pas grave. À chaque fois qu'on sort de ce ensemble, on sort de la volonté de Dieu. On sort du plan de Dieu. Et le ensemble, c'est souvent attaqué. Je viens de vous donner l'exemple. Le ensemble, Satan ne le supporte pas. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas du tout. Mais le ensemble, c'est le plan de Dieu pour nous. Le ensemble, c'est permettre, donner la possibilité à Dieu de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, ne prenez pas pour acquis. Il dit, voici. Il dit, remarquez. Faites attention. Voyez le ensemble. Voyez l'ensemble. Vous savez, l'ensemble, c'est vraiment difficile à faire. Nous avons des vidéos. Nous sommes aussi reporters. C'est surtout c'est que nous avons des frères qui ne dorment plus la nuit parce qu'ils vont aller chercher des vidéos sur Internet. Nous allons voir juste la vidéo. Je vais commenter en même temps parce qu'on va couper le son. Tu peux lancer. Regardez. La voiture arrive. Regardez. Il va se ravitailler. Et tac, il y a plein de choses qui partent. Il y en a qui... Voilà. Regardez encore. Tac. Ça, c'est des ravitaillements. C'est des courses de F1. Et à chaque fois, il y a toute une équipe qui se prépare pour que ça prenne le moins de temps possible. Il faut que chacun soit à sa place. Il faut que chacun sache ce qu'il doit faire. Il faut que chacun le fasse bien. Mais si tout ça n'est pas réuni, ben le problème, on voyait. Vous pouvez envoyer de l'essence sur le pasteur. Vous pouvez recevoir vraiment le pneu de la voiture en pleine... Vous voyez, c'est dans l'ensemble. Et quand l'ensemble ne fonctionne pas, quand la personne qui est chargée de conduire la louange n'est pas là, ben voilà, ça ne marche pas. Il y a un danger quand l'ensemble ne fonctionne pas, quand une personne qui fait partie de l'ensemble n'est pas à sa place. Il y a un danger quand quelqu'un méprise sa place, ou bien ne le prend pas au sérieux, ou bien ne s'engage pas, ou bien laisse faire les autres. Comme Yves l'a dit, je verrai bien, je vais d'abord voir. Dans l'ensemble, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a besoin de chacun d'entre nous. On a besoin de chaque personne. Juste le deuxième vidéo, est-ce que tu peux mettre? Et regardez maintenant. Il y a tellement de monde dedans. Ça a pris combien de temps là? Hein? Ça a pris combien de temps? Vous voyez l'efficacité? Il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Il y a... 2 secondes. 2 secondes. Et regarde l'efficacité. Et ça, c'est une équipe. C'est une équipe. Et ils sont ensemble. Et regarde l'efficacité. Quand quelqu'un... 9 secondes et le pneu, il n'y a plus. C'est exactement ça. Quand Dieu a pensé au Bioray, il a dit, la pluie depuis le nord de la France, et viens à la Chaux-de-Fonds, viens à ta place. Quand ils restent à leur place, ils font ce qu'ils doivent faire. Le ensemble fonctionne. Le ensemble fonctionne. Quand il y a quelqu'un qui est à l'école du dimanche, quand il y a quelqu'un qui intercède avant le culte, quand il y a quelqu'un qui fait les gâteaux parce que c'est l'anniversaire, le ensemble fonctionne. 2 secondes. 2 secondes. Quelle chaîne va pouvoir tenir, hein? Dis-moi, quelle chaîne va pouvoir tenir si vous êtes à votre place? Dis-moi, quelle chaîne va pouvoir tenir si vous faites ce qu'il faut faire? Si vous êtes efficace? Si vous êtes au top? 9 secondes. 9 secondes. Le ensemble permet de délivrer, de secourir. Le ensemble permet de démontrer que Dieu vit. David dit, c'est comme l'huile. Il dit, c'est comme l'huile. Dans l'Ancien Testament, l'huile d'onction était utilisée pour montrer et mettre à part ceux qui appartiennent à Dieu. C'est comme si Dieu dit, voilà, celui-ci, je le mets à part, il m'appartient. Il va me représenter au milieu de toutes les nations. L'onction a été fait pour les rois, pour les gens qui ont été en autorité. L'onction du Seigneur est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et l'image que David prend est exceptionnelle. Là, moi, j'aurais bien aimé être David. C'est impressionnant. Il est l'image. Il a une compréhension de la vie. Il a une compréhension de l'image. Il a le sens. Il a le sens de l'image qui est de l'imagination. Il aurait fait mieux que Steven Spielberg. Non, il est très, très fort. C'est comme l'huile, dit David. Et voici ce que fait l'huile. Quand l'huile d'onction vient sur la vie d'une personne, l'huile dans l'unité, l'huile de l'unité, quand elle vient sur la vie d'une personne, elle révèle. Deuxièmement, elle se répand. Et la troisième, c'est qu'elle ne doit pas être prise pour acquis. Elle doit être renouvelée de jour en jour. On va voir ces trois points. Celui qui appartient à Dieu, à partir du moment où il donne sa vie à Dieu, il est mis à part par Dieu. Peut-être que c'est jamais arrivé dans votre vie que quelqu'un vous a oint. Mais en fait, ce texte-là vient de la vie au quotidien des enfants d'Israël. Et peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais concrètement, ça peut être pris aussi par rapport à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Donc, si vous avez donné votre vie à Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà agi dans votre vie. Et quand l'huile d'onction vient sur votre vie, il révèle l'enfant de Dieu qui a été caché jusque-là. L'onction vient sur votre vie, l'onction du Saint-Esprit vient sur votre vie, l'onction de l'unité vient sur votre vie, et tout ce qui a été préparé d'avance pour la personne est révélé. C'est mis à jour. C'est comme quelque chose qui déclenche. C'est comme, jusque-là, ça a été comme ça, mais à partir de là, ça va être beaucoup plus facile. Jusque-là, je me suis bâti par moi-même, mais à partir de là, je vais voir la main de Dieu travailler. L'onction de l'unité, quand elle vient sur une église, ça permet vraiment de faire la différence. Un jour, Jésus parlait avec ses disciples. Il parlait des disciples et il leur parlait, il disait, voilà, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Ce qu'il voulait dire, c'est que, en fait, il y aura une sorte de marque distincte pour reconnaître les disciples. Tu arrives dans un lieu, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, et tu reconnais que l'huile d'unité est sur une personne. Tu arrives dans un lieu et tu reconnais que les gens y s'aiment les uns les autres. C'est pour ça que Jésus dit, c'est à ça que vous allez les reconnaître. L'amour qu'ils ont les uns pour les autres. L'amour qu'ils ont pour leurs frères. La préoccupation qu'ils ont pour les blessures de l'un et de l'autre. Leur préoccupation pour relever celui qui tombe. Leur préoccupation de ne pas laisser celui qui est faible aller dans la perdition. Tout le monde est préoccupé. Tout le monde. Et s'il y a quelque chose qui arrive à ma famille, moi, je suis concerné. Je suis concerné. Jésus dit, c'est à ceux-là qu'on reconnaîtra qui sont mes disciples. Parce qu'il y a l'onction du Seigneur au milieu d'eux. L'apôtre Paul dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. En fait, lui, il a dit, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que toi, est-ce que tu as l'amour? Hein? Qu'est-ce que tu donnes pour que l'amour soit reconnaissable depuis l'extérieur dans l'église de réveil? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour que quand il y a quelqu'un qui vient ici de l'extérieur, il n'est jamais venu ici, mais en fait, juste à te voir, waouh, il a été accueilli. On a entendu des témoignages comme ça. Waouh! Je suis venu dans le, je suis venu dans l'endroit, là-bas en haut, et puis on m'a accueilli. C'est la première fois que j'ai ressenti une telle amour. Qu'est-ce que tu mets en œuvre? Parce que nous sommes ici, et c'est notre responsabilité. Si tu n'as pas l'amour, dit l'apôtre Paul, tu n'as rien. L'apôtre Pierre va plus loin. Il dit, celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère, est un menteur. Waouh! Ah, je ne vais pas commenter. C'est à l'amour que tu as pour ton assemblée. C'est à l'amour que tu as pour ta famille. C'est à l'amour que tu as pour le travail du royaume de Dieu. C'est à ça qu'on reconnaît. C'est ça qui montre que l'enfant de Dieu est révélé. C'est ça qui montre que l'enfant du Seigneur, l'œuvre préparée d'avance, tout le plan du ciel, c'est ça qui permet de reconnaître. Et je vous assure, on peut le reconnaître. Exercez votre cœur à regarder. Pas juste les yeux, parce que les yeux trompent. Mais votre cœur, si votre cœur est exercé, si votre esprit est exercé à reconnaître l'amour qu'il y a dans quelqu'un, si votre vie est exercée, vous saurez reconnaître, vous saurez voir que celui-là, celle-là, cette église-là, les personnes que tu croises dans la rue, ben voilà, ils sont des disciples du Seigneur. L'huile d'onction se répand. L'huile d'onction se répand, vient d'abord sur la tête. La tête veut dire le leadership, l'autorité, ce que le Seigneur a mandaté pour conduire. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans le groupe de louanges, ça peut être dans ta famille, ça peut être partout. Mais il faut que quelqu'un conduise. Ce qui arrive en fait, c'est quand le conducteur fait n'importe quoi, c'est pour ça qu'on dévie. Ce qui arrive, c'est que quand il y a quelque chose que celui qui doit conduire ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Mais le choix de Dieu, c'est de mettre l'onction sur la tête. En fait, chacun d'entre nous est leader. Chacun d'entre nous, ne serait-ce que de notre vie, on doit décider quelque chose. On est appelé à leader notre vie. On est appelé à conduire. On est appelé à être vivant dans ce qu'on fait. La responsabilité de l'unité, la responsabilité de l'huile d'onction ne dépend pas seulement de la tête. La responsabilité de l'amour qui est entre nous ne dépend pas seulement de ceux qui parlent devant. La responsabilité du royaume de Dieu dans ta famille ne dépend pas du pasteur. La responsabilité par rapport à l'onction de Dieu ne dépend pas de celui qui est avec toi. Il y a une hiérarchie que le Seigneur a établie, mais chaque personne est responsable. Chaque personne est responsable. Si le péché vient, fait éruption dans l'église, chacun d'entre nous est responsable. Chacun d'entre nous. C'est à chacun de voir que l'huile ne tarit pas. C'est à chacun de voir que là, on n'est pas en train de dévier. L'huile vient sur la tête. Mais chaque chef de famille aussi a sa responsabilité. Ce n'est pas parce qu'elle prêche mieux que moi qu'elle va être le chef de ma famille. C'est vrai, elle prêche mieux que moi. Non ? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va être le chef de la famille. Non, non, non. La parole de Dieu dit, voilà. Ben, tu vois, on a non, 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 c'est pas ça, je plaisante là. Je plaisante, mais l'autorité doit être à sa place. Nous sommes appelés pour ne pas fuir l'autorité. On a été créés pour ça. On est designés. Tout ce qu'on a besoin pour ça était déjà en nous dès le début. C'est ce que j'ai partagé avec le groupe ce week-end. David fait un pas en arrière et il réalise et il se dit, voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. L'huile descend sur la tête, descend sur la barbe et c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Quand l'unité est gardée, quand l'unité est restaurée, quand l'unité est répandue, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. J'ai une responsabilité personnelle. J'ai une responsabilité personnelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il y a des briseurs de vie et il y a des bâtisseurs de vie. Il y a des briseurs de vie et il y a des bâtisseurs de vie, même dans l'Église. Même dans l'Église, il y a des briseurs de vie. Je ne vais pas les prendre tous, mais en fait, notre prédication d'aujourd'hui va être sur les psaumes. Et quand vous lirez les psaumes, vous allez voir que Satan est vraiment à l'œuvre, pas seulement dans l'Église, pas seulement dans le monde, mais vraiment partout, mais aussi dans l'Église, mais aussi dans l'Église. Dans le psaume 59, dans le psaume 17, dans le psaume 36, dans le psaume 64, je vais vous le dénouer comme ça, mais on ne va pas tout refaire, mais juste écoutez. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que des malédictions et mensonges. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Un autre psaume. Ils forment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. J'ai quelques questions. Êtes-vous un problème ou êtes-vous une solution ? Est-ce que vos paroles blessent ? Est-ce que votre parole donne la vie ? Est-ce que vous faites partie des briseurs de vie ? Ou vous faites partie des bâtisseurs de vie ? Pas seulement à l'église, hein, parce que je sais qu'on sourit tous. Mais quand tu parles, tu sais, quand on dit « Non, non, mais c'est pas pour eux. Mais tu sais, il est vraiment comme ça. Hein. » Qu'est-ce qui sort de ta bouche ? Qu'est-ce qui sort de dedans ? Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, pour briser l'unité, pour briser le ensemble, est-ce que c'est pour viser celui qui est la tête, qui a l'onction ? Est-ce que c'est pour le groupe de louanges, mais je l'ai déjà pris comme exemple. Vous savez, il y a deux ministères sur la terre. Le ministère de l'accusateur des frères et le ministère de l'avocat, le rédempteur du monde. Tu fais partie de quel ministère ? T'appartiens à qui ? T'appartiens à qui ? Tu peux me dire maintenant, mais dans ton cœur, si tu regardes en arrière, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Moi, en tout cas, peut-être que vous, ça va, mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de dire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas pour autant que j'appartiens à Satan. Ben non, je dois choisir mon camp. Je dois dire à mon esprit, je dois commander à mon cœur, garde l'unité, l'huile est sur toi. Tu es choisi, mis à part par Dieu. Garde, entretiens, fais quelque chose. Arrête de parler mal, arrête de... L'huile doit être continuellement renouvelée. L'huile qui vient... L'huile de l'unité ne doit être jamais prise pour acquis. Aaron était appelé pour soutenir Moïse. Aaron est quelqu'un de loin. Aaron est une personne choisie par Dieu, établie par Dieu, mandatée par Dieu. Mais un jour, dans Nombre 12, je vais le lire, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. La suite de l'histoire, c'est que la lèpre est venue. C'est ça la suite de l'histoire. La lèpre est apparue dans leur vie. Dieu prend tellement au sérieux cette histoire que pendant 7 jours, d'abord il dit, vous êtes convoqués, allez à la tente d'assignation, tout le monde là, les 3, allez. Et ils sont allés et Dieu donne ses décrets. Et le Seigneur ne plaisantait pas là, c'était vraiment, il fallait tout arrêter, 7 jours de repentance. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a eu ça la dernière fois, mais là, c'était 7 jours. 7 jours de repentance. Le peuple s'arrête. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit du mal du leader. C'est quand même... Il exagère quand même, le Seigneur. C'est... Mais en fait, c'est tellement un poison. C'est tellement un poison pour l'unité. C'est tellement un poison pour l'amour. C'est tellement un poison pour la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu. Que Dieu arrête le peuple et tout le monde à la repentance. 7 jours, ça a duré. Quand je lisais ça, je me disais, waouh, Seigneur, aide-moi là. Aide-moi. Aide-moi. Je veux bien me mettre devant toi. Convainc-moi par ton Esprit Saint. Envoie ton esprit et convainc mon cœur. Viens, Seigneur. Convainc mon cœur. La parole dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. Et encore, là, David a une imagination, c'est impressionnant, impressionnant. On était en Israël, j'avais des amis qui nous ont conduits, vraiment magnifique. Et j'ai vu ce que c'était le mont Hermon. Et en fait, comment ça fonctionne? Le mont Hermon est rempli de neige. La neige fond et c'est avec l'eau de la neige que les déserts sont irrigués. Et c'est ça. Il y a de l'eau qui descend. Et en fait, ce que David voyait, c'est que ça ne cessait pas. Ça descendait, la neige fond, et il y a toujours une rosée. Il y a toujours une rosée, il y a toujours une rosée. Chaque jour, il y avait une rosée. Mais ce qui était vraiment génial dans l'image de David, c'est que la rosée d'hier ne sert pas aujourd'hui. La rosée d'hier a été utilisée hier. Elle irriguait hier. La rosée d'hier ne sert pas pour aujourd'hui. L'unité d'hier ne sert plus aujourd'hui. L'unité doit être poursuivie, doit être recherchée, doit être guettée comme la rosée. La rosée donne la vie. David, en fait, ce qu'il voyait, c'est que la rosée descendait, et quand la rosée arrivait, il touche, et la rosée touche et donne la vie. La rosée touche et donne la vie. La vie pour l'éternité, il dit. C'est puissant quand même ce qu'il voit. La rosée vient et change les choses. Ce que Dieu fait est vraiment merveilleux. La compréhension de David est... David a arrivé à un point qu'il a vraiment réalisé que, ouais, il y a tellement d'images qui lui viennent. C'est comme lui, il dit, c'est comme la rosée. Et là, il réalise ce que c'est l'ensemble. Le ensemble qu'on a parlé tout à l'heure. Ça lui donne ce psaume. C'est un artiste, c'est un psalmiste, alors il écrit, il le chante. Dans 1 Samuel 18, il y a une histoire qui est relatée. David, un jeune homme à peu près de 17-20 ans, super beau garçon, sort de l'ombre et entre dans son ministère. Et son ministère, c'était jouer à paf, tirer sur les géants. Il fait son truc et paf, le géant tombe. Et il devient le héros du peuple. Oh là là, mais ce David, il est vraiment excellent. T'as vu comme il a fait ça? Vous savez, quand le peuple, il y a quelque chose qui se passe. Le peuple cherche toujours un héros. J'aime beaucoup le peuple. Je fais partie du peuple. Mais le peuple cherche toujours un héros. Et tout d'un coup, le peuple chante. Attends, c'est pas encore ça. D'abord, parce que David a fait cet exploit-là, le roi le prend chez lui. Il ne lui permet même pas d'aller voir son père. Il dit, tac, tu viens à la maison, David, le héros, tu viens chez moi, juste derrière ici. Il le prenait. Il voulait juste... Il ne permettait même pas qu'il aille voir son papa. Il a 17 ans quand même. Il le prend chez lui. Et le peuple commençait à chanter. Il a dit, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Ça doit être du rap, hein, c'est pas la chanson. Non, non, j'aime beaucoup le rap. J'ai un frère qui rappe. J'aime beaucoup. Mais imaginez le peuple. Et le peuple... Le peuple, c'est comme, je ne sais pas, mais tellement dans l'émotion, tellement dans la victoire, tellement, tellement de temps, qu'il ne voyait pas que, en fait, le roi, là, Ben oui, c'est lui qui a tué le mille, et puis que c'est le jeune homme qui a tué le 10 000. Quelque chose est monté dans le cœur de Saül. Quelque chose est monté. La jalousie monte dans le cœur de Saül par rapport à ce jeune homme. D'abord, il le met derrière dans sa maison, tac, il le prend. Et David vient d'une famille dysfonctionnelle. David a un arrière-plan qui est vraiment... Le contexte est difficile. Ses frères le méprisaient. Il le mettait tout le temps au coin. Désert, hein, c'est le désert, le coin. Au coin, David, au coin. Il leur dit... Le contexte de sa vie est vraiment pas possible. Un prophète vient chez lui, cherche un roi. David, il n'est même pas cité dans le truc. Il est vraiment oublié. Oublié par son père, par ses frères. Tout le monde l'ignore. Personne n'aime. Mais vraiment, il est écarté. Il vient d'une famille dysfonctionnelle. Son arrière-plan, c'est ça. Et David arrive, il fait un exploit et dit, cette fois-ci, je vais trouver un père. Cette fois-ci, je tourne mon regard vers un leader d'église, vers le leader du peuple de Dieu. Je tourne mon regard vers celui qui va me coacher enfin, celui qui va m'aimer enfin, qui va me soutenir, m'apprendre, faire quelque chose avec moi. Et David arrive. Et l'autre qui prend une lance, c'est ce qu'il a dans sa main. C'est cet esprit-là qui l'anime. Jaloux de ce jeune homme. Imaginez ce qui se passe dans le cœur de David. Imaginez ce qui se passe dans le cœur de ce jeune homme. Il semble être un héros. Il semble être quelqu'un de génial de l'extérieur. Mais il est tellement fragile, ce gamin. Il est tellement fragile. Il vient d'un arrière-plan qui est le chaos. Il vient du chaos. Et il arrive dans un lieu et l'autre, ce qu'il trouve à faire, c'est voilà ça. Voyez-vous, il peut y avoir bien des gens qui viennent à l'église avec toutes sortes d'arrière-plans, avec toutes sortes de blessures, avec toutes sortes d'attentes. Toutes sortes d'attentes. Ils viennent à l'église. Et comment est-ce qu'on va les accueillir? Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à leurs besoins? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait que nous allons répondre? Parce que c'est des gens qui sont perdus. Dans les temps qui viennent, le Seigneur va faire des œuvres comme redonner l'amour. Redonner à chacun d'entre nous de rechercher l'amour, de garder l'unité, de retrouver ce que c'est d'être mandaté pour aimer, de retrouver ce que c'est d'être... Ouais, d'ouvrir les bras. Peut-être juste d'être avec quelqu'un, d'accueillir, d'être celui qui va combler l'attente de ceux qui viendront dans l'église. Ne permettons pas qu'il y ait encore des David qui soient déçus. Ne permettons plus que vraiment, même entre nous, surtout entre nous, veillons les uns sur les autres. Poursuivez l'unité. Poursuivez les choses. 20 à 30 ans plus tard, David se retrouve dans une autre situation. Avant, il n'avait rien, mais il était fort. Il n'avait pas les ressources, il n'avait pas l'autorité, mais il était super fort. 20 à 30 ans plus tard, David se retrouve dans la même situation. Cette fois-ci, il a les ressources. Cette fois-ci, il est roi. Cette fois-ci, il a une armée. David allait à la guerre. Il allait à la guerre, mais maintenant il est plus tellement fort, il n'est plus tellement vaillant. Et pendant qu'il allait à la guerre, un géant s'approche de lui pour le tuer. Un autre géant. Vous vous souvenez, c'est son jeu préféré. Un autre géant s'approche de lui pour le tuer. Mais cette fois-ci, je ne sais pas, peut-être qu'il ne voyait pas, ou le géant était derrière, je ne sais pas. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne le secourir. Mais le gars, l'autre, il n'a pas hésité. Le géant était rassé. Et je vais lire ce qui s'est passé. Les Philistins firent encore la guerre à David. David descendit avec ses serviteurs et ils les combattirent, les Philistins. David était fatigué. Et là, c'est difficile à lire. Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Donc, c'est une race de géants, ça. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Imaginez ce que ça peut... Donc, si moi, je prends la lance... Ben... Non, c'était un géant, quoi. C'était juste pour dire ça. Il était ceint d'une épée neuve. Mais Abishai, fils de Tsurajah, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre les Philistins afin que la lampe d'Israël ne s'éteigne pas. » J'aimerais bien qu'on me dise ça. Là. C'est vrai, quoi. Pour qu'on continue à louer le Seigneur, je viendrai avec toi. Je serai toujours avec toi. Je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. À chaque fois que le géant vient, mais moi aussi, je serai là. David ne pouvait pas faire par lui-même, là. Et c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Je n'arrive pas à faire tout seul. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que le Seigneur a envoyé. Quelqu'un qui aime l'unité. Quelqu'un qui garde l'unité, qui poursuit l'unité, qui s'engage, qui n'a pas peur d'affronter le géant. Et au bon moment, au bon endroit, la personne est utilisée par Dieu. C'est quand même impressionnant. Ce que fait l'unité, c'est quelque chose de surnaturel. Le Seigneur pourvoit. Je vais finir par quelque chose que j'ai déjà partagé au groupe de louanges. L'unité, c'est vraiment quelque chose de magnifique et d'impressionnant. Mais l'unité, ce n'est pas la chose qu'on demande avant le culte. Seigneur, unis nos cœurs. C'est un miracle que nos cœurs soient unis. Mais l'unité, ce n'est pas ça. L'unité, c'est un pouvoir. Alors, vous pouvez rentrer maintenant. J'ai dit ce que je devais dire. L'unité, c'est un pouvoir. Mais je vais quand même l'expliquer. L'unité est un pouvoir. Pour avoir ce pouvoir-là, il faut avoir assez d'humilité. Pour avoir ce pouvoir-là, il faut avoir assez d'engagement. Sans ces conditions, quand ces conditions ne sont pas remplies, vous n'avez pas le pouvoir de l'unité. Le pouvoir de l'unité, c'est exactement quand il y a deux ou trois qui a le pouvoir de l'unité, qui sont assez humbles, qui sont assez engagés pour se mettre ensemble. Ils s'accordent ensemble, unis, un, ensemble, au nom du Seigneur. Le Seigneur est au milieu d'eux. Ils ont le pouvoir de faire descendre Jésus-Christ, faire travailler le Seigneur. Ils ont ce pouvoir-là à faire mouvoir Dieu. À chaque situation, quand l'unité est présente, le pouvoir de ces gens-là est important pour une église. C'est vraiment important. Donc, recherchons l'unité. Poursuivons l'unité. Qu'on soit renouvelé dans notre huile. Soyez comme David en train de toujours guetter la rosée qui descend. Et la rosée va être renouvelée. La rosée d'hier ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est seulement là où il y a l'unité, que l'Éternel donne sa bénédiction. Seulement là. Du moins, c'est la conclusion de David. Et dit la vie pour l'éternité. La vie, là, c'est quand il y a la mort dans une destinée. La vie pour l'éternité vient. Cette vie-là, c'est quand la mort retient la destinée d'une personne, la vie pour l'éternité. Où est-ce qu'il le trouve? Au milieu des personnes. Quand la mort tient par le péché, Où est-ce qu'il le trouve? Au milieu de l'unité. La vie pour l'éternité. C'est ça. Et c'est ça que David voyait. Ne perdons pas de vue l'unité. Cherchons l'unité du Seigneur. Cherchons l'unité de tout notre cœur. Poursuivons l'unité. Et que l'unité puisse être vue. Que l'unité puisse être manifestée. Je vais prier juste. Seigneur, je te remercie pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Seigneur, merci parce qu'on a débordé au niveau du temps. Seigneur, merci. Parce que ça ne t'a pas empêché de faire et tu t'es montré au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu as gardé aussi Alain jusqu'ici. Merci Seigneur, parce que tu étais avec lui et tu es avec lui aujourd'hui. Merci de l'avoir utilisé et merci d'avoir permis que cette fenêtre que Satan voulait avoir aujourd'hui, tu l'as fermée. Merci Seigneur, parce que l'unité est au milieu de nous. Donne-nous de le poursuivre. Merci Seigneur, parce que tu as gardé ta bénédiction, la vie pour l'éternité. Et donne-nous de le vivre. Merci Jésus. Amen. Amen.